franceinter.fr.
Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Paul Touvier, L'éternel fuyard, une émission proposée par Christophe Barrer, écrite par Manuel Calma, réalisée par Benjamin Habitant. Paul Touvier, ancien chef de la milice du gouvernement de Pétain, responsable du service de renseignement pour toute la région lyonnaise pendant l'occupation, est arrêté le 24 mai 1989 après 40 ans de cavale. Il meurt le 17 juillet 1996 à l'hôpital de Fresnes, en région parisienne. Voilà pour le résumé officiel. Car il existe un mystère, Touvier. Voilà un chef milicien, figure symbolique de la collaboration, qui, arrêté 2 ans après la fin de la guerre et condamné 2 fois à mort par contumace, parvient, sans que l'on sache vraiment pourquoi, à s'échapper des locaux de la Sûreté nationale. Oui, il y a un mystère, Touvier. Car aussitôt après sa première évasion en 1947, homme politique, magistrat, prêtre, moine et hiérarchie de l'Église interviennent en sa faveur, l'aident, participent à le dissimuler pour gêner, voire empêcher les recherches. Et ce, pendant près de 50 ans. En novembre 1971, il est même gracié par le président Georges Pompidou. Ce sont des journalistes qui le retrouvent, et à partir de là, ils vont le traquer de monastère en prieuré, convoquant la police et la gendarmerie. En 1981, un mandat d'amener est délivré contre l'ancien milicien, et en 1988, le juge d'instruction décide de confier l'enquête à la gendarmerie. C'est en mai 1989 que Paul Touvier est arrêté au prieuré Saint-François de Nice. En avril 1994, l'ancien chef de la milice lyonnaise est condamné à la réclusion à perpétuité pour complicité de crimes contre l'humanité à la suite du massacre de Rieux-la-Pape, où en juin 1944, 7 juifs furent exécutés par les miliciens de Touvier en représailles de l'exécution de Philippe Henriot par la résistance. C'est ce parcours mystérieux que la fiction va nous raconter, ou comment Paul Touvier a pu fuir la justice si longtemps sans que cela n'ait soulevé de questions morales. Après la fiction, pour continuer notre enquête dans ce passé trouble, nous recevrons Bénédicte Vergès-Chaignon, historienne et spécialiste de Vichy et de la collaboration.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Paul Touvier, L'éternel fuyard, de Manuel Calma.
Au milieu de la nuit, je me lève pour vous louer à cause des jugements de votre justice.
Paul ? Mais Paul, qu'est-ce que tu fais ?
Rien. Allez, rendors-toi. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Amen. Tant que je sentirai cette caresse de l'aube, ce froid sec qui me rappelle que je suis vivant, je n'aurai rien à craindre. Ce froid-là, je ne le redoute pas, non, non. Il est doux, ce frisson, loin de l'effroi. De cette justice des hommes qui voudraient décider de mon sort, m'ôter la vie. Mais mon heure n'a pas sonné. Personne, à part toi, Seigneur, n'a droit de mort sur moi. Toi seul es mon juge.
Oh, l'épaule vient de coucher. Cette chambre est un glaçon, une véritable cellule de prison. Puis ferme cette fenêtre. Attraper la mort, il manquerait plus que ça. Tiens. En 4 heures, on quitte le monastère. Jusqu'à une prochaine fois.
Ça ne s'arrêtera jamais, ce cirque.
Paul, on a l'habitude, non? C'est la vie qu'on a choisie.
Choisie? C'est vite dit.
Allez, viens.
Mes malles sont dans la remise derrière la chapelle.
Comme toujours.
Est-ce que j'ai bien repris tous mes carnets?
Devant toi.
Très bien. Je vérifierai quand même une dernière fois.
Oui, Paul, tu vérifieras, comme d'habitude.
Et alors ?
Et alors ? Rien. Faut pas t'empêcher de vérifier, c'est tout. Allez, on dort maintenant.
Hiver 1987. Comme toutes les nuits depuis 40 ans, Paul Touvier continue sa guerre. Il oublie, occulte, se raconte sa vérité. Chef du 2e service de la milice de Lyon, le bras armé de la Gestapo, il a été condamné à mort par contumace pour l'exécution de 7 juifs au cimetière de Rieux-la-Pape en 1944 et pour le meurtre de Victor Bache et de sa femme Hélène la même année. Paul Touvier se fait appeler Albert Gaillard, Paul Lacroix, Paul Berthet, Monsieur Truchet, au gré des costumes de fuyard qu'il endosse. Sa femme Monique l'accompagne, ainsi que ses deux enfants nés dans la clandestinité. Montpellier, puis Chambéry jusqu'en 1972. Il ne quitte pas le territoire, navigue entre la Savoie, l'Île-de-France et le Nord, triangle des Bermudes dans lequel il disparaît comme par miracle. En 1984, un avis de décès dans le carnet nécrologique du Dauphiné libéré intrigue. Tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit d'une manœuvre grossière pour qu'on l'oublie définitivement. Mais un tandem le traque. Louis-Marie Auraud et Hervé Liffrand du Canard Enchaîné, journaliste chevronné qui tourne autour des milieux traditionnalistes.
Bon, maintenant qu'on est bien d'accord. Tu viens juste te renseigner sur les liens entre les chevaliers de Notre-Dame et l'archevêché.
Ouais, les liens sont évidents, ils assurent le service d'ordre du chemin de croix tous les ans.
Mais c'est bon ça.
Mais Monseigneur Lustiger en tête de cortège. C'est un peu limite, non?
Ah bah oui, quand même.
Là, je dois rencontrer Jean-Pierre Lefebvre. C'est lui qui tient les rênes de la fraternité Notre-Dame de la Merci.
Mmh.
On a sans doute trouvé le lien entre l'échec des Berthet-Touvier. C'est l'association qui alimente le compte de la famille. Parmi ces chevaliers, t'as quand même des mecs qui sont partis pendant la guerre sur le front de l'Est.
Division Charlemagne.
Ouais, avec la Waffen SS, ni plus ni moins.
Donc, si on découvre un lien entre Touvier et eux, c'est banco.
Ce serait bon, ouais. Ce serait pas vraiment étonnant. Il y a un fil à tirer de ce côté-là. J'en ai marre, moi, de jouer au chat et à la souris avec cette bande de zozos. On met le pied dans la porte et on la referme pas tant qu'on n'a pas repéré les alliances et les cousinades de toute cette pieuse famille.
Ok, bah écoute, je retourne à la rédac. Histoire de préparer le terrain. En cas de scoop.
Mais on annonce rien pour le moment, hein, c'est trop tôt. Ça m'étonnerait que nos chevaliers se mettent à table à la première visite.
Bon, on sait jamais. Souviens-toi de Jacques Desrogis quand il a piégé Touvier. En lui faisant livrer un bouquet de fleurs, il l'a fait sortir de sa tanière comme un bleu. Ne croyez pas ses yeux.
Putain, ça nous rajeunit pas. Depuis le temps qu'on le traque, celui-là. Tu crois que nos minots qui sortent d'école de journalisme, là, ils le connaissent encore? Et Desrogis, on n'en parle même pas, tombé aux oubliettes.
Oh, bah si, quand même. La bobine de Touvier blanc comme un linge, qui passe la tête dans l'interstice de ses volets en pleine coupe de l'Express, ça s'oublie pas.
Ouais, ça a fait le tour du monde à l'époque.
Mmh. 1972. Lui qui croyait s'en être tiré avec la grâce présidentielle de Pompidou.
Et hop, clic-clac Kodak. C'est ça qu'il nous faut au canard, un bon scoop des familles.
Bon, en tout cas, on a une longueur d'avance sur eux cette fois-ci. On va le loger avant les flics.
Si Dieu le veut. Bon, allez, file. Tu nous vends la soutane connexion, hein, ou quelque chose dans le genre.
Ouais, ça marche, on se retrouve au journal.
En 1971, Charles de Gaulle a catégoriquement refusé la grâce à Touvier, qui selon lui méritait 12 balles dans la tête. Georges Pompidou, lui, s'est laissé convaincre par le très actif Monseigneur Charles Ducaire, prélat au Vatican, de lever ses privations de droits et d'interdiction de séjour sur le territoire. C'est le 21 septembre 1972 que le président convoque la presse et justifie sa grâce présidentielle en ces termes. Allons-nous éternellement entretenir saignantes les plaies de nos désaccords nationaux? Le moment n'est-il pas venu de jeter le voile, d'oublier ces temps où les Français ne s'aimaient pas, s'entre-déchiraient et même s'entretuaient? En prêchant la réconciliation nationale, il ravive alors les blessures encore profondes de la guerre. 8 plaintes pour crimes contre l'humanité sont déposées, à commencer par celle d'Henri Gleyzer, fils de Léo, fusillé à Rieux-la-Pape en 1944. Touvier disparaît. Un homme décide de tout reprendre à zéro, le lieutenant-colonel Recordon, chef de la section de recherche de Paris. Avec son adjoint, le chef Bélanger, ils font le point sur le dernier dispositif de surveillance placé autour de la Grande Chartreuse dans l'Isère et fortement soupçonné d'abriter régulièrement la famille Touvier. L'enquête patine.
Jusqu'ici, la planque n'a rien donné.
Aucune trace de Touvier. Ni de sa femme, ni de ses enfants.
Pourtant, une famille de quatre, ça passe pas inaperçu.
Cette fois-ci, tout concordait.
On a dû le louper de peu. On tourne autour.
Mais lui aussi. Il est mobile. Rompu aux mêmes techniques que nous.
Ouais. On va tout repasser au peigne fin. Fisc, compte en banque, sécurité sociale, abonnement, entourage. Il y a un truc qui nous échappe, on va trouver la faille.
Dans le même temps, en la basilique Notre-Dame, un drôle de cérémonial se déroule sous les yeux éberlués du journaliste du Canard enchaîné, Hervé Liffrand.
Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ça mériterait bien quelques photos. On est dans le summum du kitsch. Si Oro voyait ça. C'est quoi ces capes et ce cérémonial ? Non mais sérieux.
Ah, monsieur. Bienvenue en la basilique Notre-Dame de Paris. Vous voyez, cher monsieur, nous n'avons strictement rien à cacher. Nos chevaliers sont réunis devant vous. Vous allez pouvoir assister à notre réunion. Je suis à vous dans quelques minutes.
Prenez votre temps. Je suis pas pressé. Non mais sérieux. Chevalier, armure, croix palmée. Et tout cérémonial d'un autre temps. Et ces insignes, justement. Je les ai déjà vus quelque part. Mais où ?
Jean-Pierre Lefebvre.
Enchanté, monsieur Lefebvre.
Vous avez l'air impressionné, mais nous ne faisons pas les choses à moitié chez les chevaliers de Notre-Dame. Tout compte, le décorum, comme la parole de Dieu, que nous prêchons parfois dans le désert, au sens pratique comme au sens figuré. Vatican II, mais quelle foutaise, n'est-ce pas ? Comme si le décorum ne comptait pas. La beauté fait partie de l'extase, n'est-ce pas ?
Oui, vous êtes mieux placé pour le dire.
Mais ne soyez pas impressionné. Fondez-vous dans le groupe. Nous sommes là pour échanger, pour mieux nous connaître. Il est vrai que tout cela peut surprendre. Nous sommes des spécimens en voie de disparition. Malheureusement, fervents patriotes et défenseurs d'un ordre pour le moins incompris et profondément mis à mal.
Que voulez-vous dire ?
Oh, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ni d'hier, d'ailleurs. Nous pouvons faire remonter cela à l'après-guerre. Disons que nos services rendus à notre mère patrie... Je devrais dire feu, notre mère patrie, n'ont pas été reconnus à leur juste valeur. Savez-vous que la mémoire est courte ? Surtout lorsqu'elle est envisagée collectivement, elle s'efface, elle se transforme, elle se travestit.
Ah !
Nous sommes bien placés pour savoir que le devoir de mémoire a bon dos. Pour employer une expression très à la mode, et pour dire les choses comme elles sont, nous avons aidé certaines bobies devenues galeuses par l'opération de quelques énervés un tantinet procéduriers. Des brebis devenues galeuses qui, entre autres, ont combattu sur le front de l'Est, à côté de nos alliés de l'époque, pour éviter que la France ne tombe sous la dictature d'un certain Staline. Mais c'est politiquement incorrect, encore une expression à la mode, de dire cela. Alors nous faisons notre petite confiture sans chercher à la faire goûter au troupeau de cochons.
Vous voulez parler de ces Français qui se sont enrôlés dans la division Charlemagne ?
Précisément. Et allons, dans tous les moyens, n'était-il pas bon pour combattre une peste rouge qui gagnait du terrain un peu partout ? Nos alliés n'étaient pas de ce côté-ci du front, à ce que je sache. Le code d'honneur chevaleresque n'est autre que combattre par le règne. Et je vous rappelle que notre roi ne s'appelait pas Staline, mais Pétain.
Et ses serviteurs miliciens ont-ils eu droit eux aussi à quelques aides de votre part ?
Cela va sans dire, mais tout cela est d'un autre âge.
J'en doute pas.
Eh oui, nous n'avons rien à cacher, cher monsieur. Notre passé est notre passé. Et notre présent n'est certes pas aussi héroïque, mais lorsqu'un des nôtres est traité en brebis galeuse, nous ne hurlons pas avec les loups.
Vous voulez parler de quelqu'un en particulier ?
Oh, pourquoi pas ? Prenez Touvier, Paul Touvier. Je présume que vous voyez de qui je parle.
Oui, sans doute.
Eh bien, je l'ai sorti d'une belle panade à l'abbaye de Hautecombe, dans le coffre de ma voiture. Ce pauvre Paul s'en souvient encore.
Il s'en souvient toujours, vous voulez dire ?
Il s'en souvenait quand je le fréquentais encore.
Ah.
Je vous laisse, encore pas mal de choses à faire. N'hésitez pas si vous avez besoin d'autres éléments. Mon secrétaire pourra vous les communiquer.
Si vous souhaitez adhérer à notre association ou participer au chemin de croix qui se tiendra dans quelques semaines...
J'hésiterai pas.
Au revoir, cher monsieur.
C'est dément. C'est dément. Tiens, c'est totalement dément.
Paul Touvier se sait traqué. Il sait aussi qu'il doit changer de planque le plus souvent possible. Au fil des ans, il a su se tisser un réseau solide et acquis à sa cause. On le retrouve le 6 juin 1988, noircissant ses carnets dans une de ses cachettes monacales, entre Haute-Combe, Wisques et Chambéry.
Où en étais-je ? Ah oui, ce soir il passe le vieux fusil à la télévision. C'est l'un des films les plus ignobles sur l'occupation. Ça me fout en pétard. Comment les gens peuvent croire à toutes ces balivernes qui font pleurer dans les chaumières ? Tout cet argent pour fabriquer ces mensonges, quel scandale !
Pourquoi tu ressasses tout ça ? Ça te rend malade à chaque fois et tu n'y changeras rien.
Combien de temps encore tous ces idiots atteints de cette petite vérole judéo-maçonnique continueront-ils de travestir l'histoire ? Notre histoire de France. Quand est-ce qu'on ouvrira les yeux sur la réalité de cette guerre ? Les vrais traîtres seront-ils un jour démasqués et jugés ? Car il est question de cela. D'une justice à deux vitesses.
Paul, arrête !
Mais c'est dément !
Mais le monde a changé.
Tous ces artistes, ces journalistes, ces moutons de Panurge. Ah, ça, pour tourner en rond, ça tourne en rond. Et tous ces chasseurs de nazis. Barbie extradé, Valheim dénoncé, Rudolf Hess retrouvé pendu. Je sais que je figure sur leur liste. Qu'est-ce que c'est ? Va voir.
Oui, ne t'inquiète pas. Paul, c'est une erreur. Il n'y a personne dans le couloir. C'est un des frères qui a dû se tromper.
C'est eux. Ils viennent me chercher. Ils vont m'exécuter comme un chien.
Mais non, t'as rien à craindre ici. Dans la maison de Dieu, rien ne peut nous arriver.
Oui. Oui, tu as raison. Allez, laisse-moi écrire maintenant. J'ai besoin de calme.
Va-t'en.
Est-ce que j'en étais ? Je suis chaud. J'étouffe dans cette cellule. Vivre dans 9 mètres carrés, c'est pas une vie. Une cellule, c'est une cellule. Dans un monastère comme ailleurs, tiens. Reclus, je suis un reclus. Ni plus ni moins. Pas le choix. Je vais crever de cette réclusion à perpétuité. Je n'offrerai pas ce cadeau. Tout sauf se rendre. Qu'ils viennent me tuer, cette bande de crypto-bolcheviques à la solde des juifs. Bande de terroristes. Je vous connais. Je vous ai chassé comme tous les autres. Et ça se dit français. La traîtrise incarnée, oui.
En boucle. L'ex-milicien ressasse depuis des années. Et l'âge aidant, les pathologies se multiplient. Craintif, fallo, parano. Déjà en 1939, il n'emmène pas large. Il sert dans la 8e division d'infanterie. Drôle de guerre et drôle de baptême du feu dans l'Aisne. Son compagnon d'armes meurt la tête écrasée. Il s'enfuit au hasard. Il aurait perdu son unité. Il est temporairement enregistré comme déserteur. La peur ne le quittera plus jamais. Une débâcle intime et des adhésions mortifères qui vont renforcer sa haine de l'autre tout au long de sa vie et son obsession d'être traqué.
Recordons, j'écoute.
Oui, bonjour, mon colonel. Oro, à l'appareil du canard enchaîné.
Ah, Oro. Toujours sur notre affaire. Et si vous m'appelez, c'est pour savoir qui tient la corde, n'est-ce pas?
Tout juste. Enfin, pas tout à fait.
Je vous écoute.
L'ordre des chevaliers de Notre-Dame, ça vous dit quelque chose?
Ça se peut.
J'ai besoin de votre confirmation sur les liens de Touvier avec cet ordre. Nous nous apprêtons à sortir l'info cette semaine sur les protections dont pourrait bénéficier Paul Touvier parmi cette cette organisation pour le moins sectaire.
Attendez. Qu'est-ce que vous me racontez?
Pouvez-vous me confirmer qu'ils sont impliqués dans la protection de notre chef milicien?
Oui, très certainement. Ah, c'est une piste très intéressante, mais... Non, mais de grâce, laissez-moi une quinzaine de jours avant de publier.
Vous savez, c'est pas dans nos habitudes de négocier avec la gendarmerie la place et la date de parution des articles. Enfin, étant donné qu'on est sur un hebdo, 10 jours, ça vous dirait?
Bon, très bien, Oro, c'est parfait. Merci de votre appel.
Je vous en prie. Au revoir, mon colonel.
Au revoir. Bélanger, Marty! Bon, nous n'avons plus de minute à perdre. La Grande Chartreuse, l'Ordre des Chevaliers de Notre-Dame, la maison de Jean-Pierre Lefebvre à Saint-Mandé. Je veux tout ce petit monde sur écoute, 24 heures sur 24. Touvier est cuit. Et cette fois-ci, il nous échappera pas.
Entendu, on y va, les gars.
Allez, c'est parti.
Mardi 14 mars 1989, 17h.
Écoute ça, ça devrait t'intéresser. Il y a un article qui concerne Paul dans le Canard de demain. C'est dans les rotatives.
Ok, va falloir que je calme nos ouailles. Et si ça remonte, que j'affûte nos arguments.
On a aidé une famille en détresse, ce qui nous a valu une publicité de mauvais aloi dans une certaine presse.
T'as raison.
Allez, on tient le coup.
Oui, on tient. On évite de s'appeler, ok? À partir d'aujourd'hui, on fait les morts.
Rembobine.
Il y a un article qui concerne Paul dans le Canard de demain. C'est dans les rotatives.
Ok, il y a des complicités chez nous. Les RG ont une copie du journal la veille en sortant des rotatives. Ça vient donc de nos collègues. Donc il va falloir faire très vite, hein, avant que ça disparaisse à nouveau des radars.
Ok, les gars.
Allez, hop, tout de suite.
On y va là.
Le compte à rebours est lancé. Le 23 mai 1989, les gendarmes décident d'auditionner Jean-Pierre Lefebvre dans les locaux de la section de recherche de Paris, rue de Béarn, et de le faire parler. Tous les faisceaux convergent sur l'ordre des chevaliers de Notre-Dame. L'homme refuse de répondre aux questions. Recordons le travail au corps. Un nom sort. Geneviève Penoux, domiciliée rue Le Courbe, dans le 15e arrondissement de la capitale. Elle encaisse tous les mois un chèque de 3000 francs des chevaliers de Notre-Dame et restitue l'argent à un certain Paul Tillois, basé à Versailles, qui le livre à Saint-Michel-en-Brenne, près de Châteauroux, chez les sœurs de la fraternité Saint-Pidis, un couvent dans la mouvance de celui de Wisc, dans le Pas-de-Calais, et de Monseigneur Jean-Pierre Lefebvre. Paul Touvier n'a pas oublié les vieilles méthodes de cloisonnement de la milice. Peu importe, les gendarmes sont rompus à ces techniques et ont désormais une adresse.
Doucement, les gars. Verrouillez les accès, protection tout autour, là et là. Je veux 2 mecs en bouclier. Allez, on y va. Ça bouge de l'autre côté, en couverture. Fais le tour. Gendarmerie nationale, laissez-nous entrer.
Vous n'avez pas le droit de pénétrer ici.
Voilà le mandat d'arrêt en vue d'une perquisition.
Il est interdit d'entrer dans un Carmel, monsieur l'agent.
Vous parlez sans doute d'un autre temps. Je ne connais pas de lieu interdit dès lors que nous agissons sur commission rogatoire. Ce mandat d'arrêt, vous le voyez, applicable en tout lieu, c'est bien noté. Il est 19h, nous commençons la perquisition.
Allez, c'est parti, venez vers.
Et qu'est-ce que vous pensez trouver chez nous? À part de la ferveur et de la quiétude.
Vous devez le savoir. Vous allez peut-être nous faire gagner du temps en collaborant.
Nous n'appartenons pas au même ordre et n'obéissons pas au même chef.
En attendant, vous êtes en garde à vue.
Colonel, c'est par là que ça se passe.
Allez, monsieur l'abbé, suivez-moi. Tiens, des mâles. Au nom de Paul Lacroix. Qui est Paul Lacroix? À qui sont ces malles ?
Je connais pas de Paul Lacroix. Aucune idée.
Vous préférez qu'on parle de Paul Touvier ?
Oh la vache ! Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Ça rigole pas. Hein.
Oui, intéressant, très intéressant. Les croix de fer de la Seconde Guerre mondiale. On passe à table tout de suite, monsieur l'abbé, ou on vous emmène faire un tour à la section de recherche ?
Ils ont quitté les lieux il y a à peine 48 heures.
Qui a quitté Mazières ?
Bah, Paul Touvier, sa femme Monique et leurs deux enfants.
Quelle destination ? Allez, allez, on n'a plus de temps à perdre !
Nice, le prieuré Saint-Joseph.
Ok, les gars, on remballe tout. Personne ne sort d'ici. Je ne veux pas un seul contact avec l'extérieur. Mélanger en filico presto. S'il faut, je conduirai toute la nuit.
Je vous suis.
Ok, on y va.
Allez, c'est parti.
Il est minuit lorsque le colonel Recordon et son adjoint Bélanger prennent le volant de leur Peugeot 305. 800 km les séparent du prieuré de Nice. L'ordre est de laisser entrer quiconque se présente au prieuré, mais de ne laisser absolument personne en sortir. Il est 8 heures du matin lorsqu'une colonne de silhouettes se positionne en file indienne. Pas un bruit. À 8h30, un top intervention rompt le silence du matin.
Ouvrez ! Ouvrez ! Allez, poussez-vous là, les gars ! Nous avons une commission rogatoire du juge Jean-Pierre Getty. Laissez-nous faire notre travail.
Non, messieurs, fermez les accès, les gars.
Par là-bas.
Vous n'avez pas le droit.
Non. Bélanger, on fonce au premier étage, ça a l'air...
Au nom de Dieu, ne passez pas.
Allez, on se brouille. Cette fois, il ne va pas nous échapper.
Non.
C'est lui ? Tiens. C'est bon, on l'a chopé. Asseyez-vous, c'est fini. C'est la gendarmerie, vous êtes en état d'arrestation. C'est terminé.
Que Dieu vous pardonne.
Tout est terminé.
Comment avez-vous pu ?
Allez, suivez-nous, vous aurez tout le temps de vous expliquer. Votre cavale est bel et bien terminée.
Paul.
Aucun mot. Aucun regard aux journalistes, aux photographes et aux curieux massés autour du prieuré de Nice en ce matin du 24 mai 1989. En quelques secondes, l'ancien milicien revient dans la lumière, lui qui fuyait son ombre depuis toujours. La France des années 90 découvre alors un homme ordinaire en apparence, mais doté d'une âme de bourreau. Sa ligne de défense sera dénuée de tout regret, de toute compassion, ni responsable, ni coupable. Qui êtes-vous pour me juger ? Lance-t-il à ses accusateurs. Ses protecteurs justifient leur complicité en ces termes. Il avait besoin d'aide et nous étions là pour l'écouter, pas pour le juger. La sacro-sainte justice dépasse de loin celle des hommes. Le 20 avril 1994, après de multiples rebondissements, le tribunal d'instance de Versailles reconnaît la tuerie des 7 juifs de Rieux-la-Pape et qualifie la participation de Paul Touvier de crime contre l'humanité. L'ex-milicien est finalement condamné à la réclusion à perpétuité, ferme et définitive. Il meurt le 12 juillet 1996 à la prison de Fresnes.
Affaire sensible. Paul Touvier, l'éternel fuyard. De Manuel Calma. Avec Georges Clès, Marie-Bénédicte Roy, Claude Aufort, Antoine Doignon, Malo de la Tulet, François Perrache, Théo Combi-Lemaître, Bertrand Poncet et Céline Schaeffer. Et les voix de Émilie Pierson, Bastien Bouillon et Henri David Cohen. Bruitage, Sophie Bissons. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour et Lydwin Caron. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Benjamin Habitant.
Voilà que l'on se cache, quand se lève le vent de peur qu'il ne nous pousse vers des combats trop rudes. Voilà que l'on se cache, dans chaque amour naissant qui nous dit après l'autre, je suis la certitude que voilà que l'on se cache, que notre ombre un instant pour mieux fuir l'inquiétude soit l'ombre d'un enfant, l'ombre des habitudes qu'on a plantées en nous quand nous avions 20 ans. Serait-il impossible de vivre debout? Voilà qu'on s'agenouille d'être à moitié tombé sous l'incroyable poids de nos croix illusoires. Voilà qu'on s'agenouille et déjà retombé pour avoir été grand l'espace d'un miroir. Voilà qu'on s'agenouille alors que notre espoir se réduit à prier, alors qu'il est trop tard, qu'on ne peut plus gagner à tous ces rendez-vous que nous avons manqués. Serait-il impossible de vivre debout? Voilà que l'on se couche pour la moindre amourette, pour la moindre fleurette à qui l'on dit toujours. Voilà que l'on se couche pour mieux perdre la tête, pour mieux brûler l'ennui à des reflets d'amour. Voilà que l'on se couche de l'envie qui s'arrête de prolonger le jour pour mieux faire notre cours à la mort qui s'apprête pour être jusqu'au bout notre propre défaite. Serait-il impossible de vivre debout?
Ce monsieur Touvier a été condamné à mort à la libération par contumace. La chancellerie considère que ces condamnations à mort par contumace étaient prescrites, c'est-à-dire qu'elles n'avaient plus d'existence. Donc, le problème ne m'a pas été posé. Et il n'aurait d'ailleurs pas pu l'être, car je ne peux pas gracier des condamnés par contumace. Donc, ma grâce a consisté uniquement à relever M. Touvier de l'interdiction de séjour et de la confiscation de ses biens officiels, en l'espèce de la possession en indivision d'une maison avec 4 ou 5 frères et sœurs. Voilà le dossier tel que je l'ai traité et les faits ramenés à leur exactitude. Mais par contre, je ne l'ai pas relevé de ses droits civiques ni d'un très grand nombre d'incapacités. Il est toujours frappé de ce qu'on appelle la mort civile.
France Inter, affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Affaire sensible à la fiction, aujourd'hui Paul Touvier, l'éternel fuyard. Notre invité, Bénédicte Vergès-Chaignon, historienne, auteur du livre intitulé L'affaire Touvier, les révélations des archives. Bonjour Bénédicte Vergès-Chaignon.
Bonjour.
Vous êtes historienne spécialiste de Vichy et de la collaboration. Vous avez écrit plusieurs livres sur cette période, dont un livre sur Pétain en 2015 et l'affaire Touvier donc en 2016 chez Flammarion. Tout d'abord une question personnelle, mais à laquelle l'historienne peut répondre facilement. Hein. Comment vous êtes-vous intéressé à Paul Touvier? Qu'est-ce qui vous a amené vers l'histoire de ces personnages?
En fait, comme je travaille depuis des années sur Vichy et la collaboration, je devais finir par rencontrer Paul Touvier. Les lois d'ouverture des archives publiques facilitaient le travail. puisque en l'occurrence, il fallait s'intéresser non seulement aux années 40 qui m'occupent normalement, mais aux années 70, 80, 90 également. Et donc c'était pour moi une incursion dans l'histoire récente.
Mais ça aurait pu être Bousquet par exemple. C'était Touvier, pourquoi lui? Est-ce que son itinéraire a quelque chose de particulier ou au contraire, est-ce qu'il est un échantillon intéressant de ce que fut l'itinéraire des collabos?
Oui, il est très représentatif au fond du milicien ordinaire. Et il lui est arrivé des choses extraordinaires qui ont fait de sa vie finalement une affaire nationale et un traumatisme français pour quelqu'un qui est essentiellement un délinquant de droit commun dans la plupart de ses activités et puis qui a commis un crime bien particulier, le massacre de Rieux, qui a perduré puisque c'était un crime contre l'humanité.
Alors c'est un milicien collabo, bien sûr, plutôt falot et lâche, enfin il n'y a qu'une espèce de charisme autour de ce type.
Oui, hein. C'est pas quelqu'un qui a un courage physique du tout, d'ailleurs il ne s'en targue pas, il n'aime pas manipuler les armes à feu, hein. De ce point de vue-là, il ne correspond pas à l'idée qu'on peut se faire de
milicien.
Il envoie ses hommes faire la basse besogne, et puis lui, je dirais qu'il collecte l'argent après que les opérations ont été faites.
Alors, la grande question posée par le personnage Touvier est, comme vous dites, un traumatisme français. D'abord parce que Vichy et la collaboration, c'est un traumatisme historique. Et ça veut pas dire qu'il faut pas l'assumer, au contraire.
Oui, oui.
Mais lui en plus, il y a cette image de cette homme-là, alors évidemment qu'on ne trouve pas sympathique, on ne peut pas le trouver sympathique, mais il y a cette image qui colle à un traumatisme. Et puis il y a surtout ces 50 ans de fuite. Et bien sûr qu'on parle de complicité. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors,
c'est la question centrale.
Oui, c'est la question centrale. Et malheureusement, il n'y a pas de réponse unique. Il y a un certain nombre de concours de circonstances, tout simplement. Il est un milicien parmi d'autres, il est réputé mort à la Libération, donc dans un premier temps, on ne le cherche pas, effectivement. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il était le chef d'un service de renseignement du deuxième service, et donc il avait préparé de faux papiers, il avait préparé de fausses identités, il était, disons, un peu un professionnel aussi de la dissimulation, ce qui l'a beaucoup servi dans un premier temps. Il est également très manipulateur, séduisant. Il sait à qui s'adresser et comment insister, au contraire se retirer. Et donc, il arrive à obtenir des appuis haut placés, éventuellement donc parmi des religieux, parfois parmi des hommes politiques, plus rarement des hauts fonctionnaires. Et donc, il mène sa barque comme ça, avec un mélange de chantage affectif, de chantage au suicide, de protestation d'innocence et de mensonges auxquels il croit lui-même. Et puis, il va avoir le coup de chance extraordinaire que ses soutiens lui permettent d'obtenir une grâce présidentielle pour les peines accessoires, hein, puisqu'il avait tout simplement bénéficié de la prescription de ses condamnations au bout de 20 ans en s'étant suffisamment bien caché. Et après, nouveau coup de chance pour lui, comme il tombe sous le coup des crimes contre l'humanité, mais il n'y a aucune jurisprudence, on ne sait même pas comment instruire, qui devrait juger. Au fond, bien, il gagne du temps comme cela. Après, il y a une part de négligence, puisqu'en 1981, après qu'il a un mandat d'arrêt décerné contre lui, eh bien, ce mandat d'arrêt n'est pas diffusé et personne ne cherche en réalité Touvier. Et il y a ce paradoxe que Touvier se cache et dit partout qu'il est menacé de mort alors que personne ne le cherche en réalité. Alors, l'un des juges d'instruction pensera que la police le protège au nom de vieille solidarité ou peut-être de services qu'il aurait rendus au moment de la guerre d'Algérie, mais n'en aura pas la preuve. Mais en tout cas, dessaisit la police et à ce moment-là désigne la section de recherche de la gendarmerie de Paris pour retrouver Touvier. Et donc, ce qui n'était pas advenu pendant des décennies se produit en quelques mois avec le coup de pouce de journaliste du Canard Enchaîné.
Et là, on y reviendra, mais tout à l'heure, on a diffusé une archive où on entend le président Pompidou. Donc, il doit se justifier sur la grâce et lui met le débat sur le terrain légal, hein, alors que c'est quand même une affaire morale. Bon, on connaît l'éternel débat entre le droit et la morale, mais il y a un décalage quand même, parce que ce que dit le président Pompidou est recevable d'un point de vue juridique. Bien sûr que c'est recevable, mais par rapport au traumatisme des survivants et des proches de victimes, ça n'est pas à la hauteur.
Absolument. Alors, il place sa réponse sur un terrain extrêmement technique et je pense qu'il y a une part de sincérité, c'est-à-dire que quand j'ai vu moi-même le dossier dans les archives de l'Élysée de Touvier, il est très gros, il est très complexe, et au fond, je ne suis pas sûre du tout que Pompidou l'ait réellement lu d'un bout à l'autre, parce qu'en tant que président de la République, ça représente trop d'investissements. Et je pense qu'il a dû se contenter d'une note. Voilà, ça c'est la partie technique. Sur le fond, vous savez sans doute que Georges Pompidou n'avait rien fait de particulier pendant l'occupation de la France. Et il traînait cela comme un boulet aux yeux des gaullistes historiques.
Absolument.
Vis-à-vis desquels il n'était pas mécontent de marquer des points. En affectant très ostensiblement de tourner la page de la Seconde Guerre mondiale, mais c'était la page de trop, effectivement, celle de Touvier, puisque aussitôt que la grâce est connue, eh bien, les plus hauts juristes qui ont été résistants, qui ont été gaullistes, à commencer par René Cassin, se réunissent et c'est eux qui cherche le moyen de relancer une procédure de justice contre Touvier.
Bénédicte Vergès-Chaignon va se retrouver dans 3 minutes pour continuer de parler de Paul Touvier et on s'arrêtera quand même sur les protections du monde religieux. Then I'm radio, then I'm television, I'm afraid of everyone, I'm afraid of everyone. Lay the young blue bodies with the old red bodies. I'm afraid of everyone. I'm afraid of everyone. With my kid on my shoulders, I try not to hurt anybody I like. But I'm not afraid to die. Bénédicte Vergès-Chéniaud, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre que j'ai entre les mains, qui s'appelle « L'affaire Touvier, les révélations des archives » chez Flammarion. Alors, on a évoqué tout à l'heure la somme d'appui, de protection dont Touvier a bénéficié. Parmi cette sphère-là, il y a la sphère religieuse. Alors, pourquoi les religieux l'ont-ils autant protégé? Est-ce que c'est parce que, par charité chrétienne, on va dire, voilà, un homme menacé de mort, alors on le protège? Ou est-ce qu'il faut y voir autre chose, une certaine collision d'une partie du monde catholique avec une idéologie qui parfois ne lui déplaisait pas? Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, l'idéologie pétainiste, c'était peut-être une protection contre l'ennemi absolu, le communisme. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, à moins que j'aille trop loin dans,
non,
dans
non,
le raisonnement.
Non, il y a vraiment un mélange de tout ça. Touvier joue avec une extrême habileté de tous ses registres. Ouais. Il est lui-même issu d'une famille très catholique, très intégrée, hein, comme ça, dans un milieu religieux traditionnel. Et il va utiliser à merveille cette sensibilité, ces réseaux, pour obtenir alors des uns une aide matérielle, hein, très concrètement de l'argent, des hébergements, d'autres leur réseau de relations pour toucher des ministres, le président de la République. Alors, en se faisant valoir comme chrétien en recherche de la vérité, bien sûr comme condamné à mort.
Jouant sur la notion de pardon peut-être aussi.
Alors non, car il n'a jamais admis être coupable de quoi que ce soit.
Ah bon, il y a quoi que ce soit. Donc ça c'est réglé. Voilà.
C'est pour ça que j'ai parlé plutôt d'un chrétien en recherche que d'un pénitent ou d'un repenti. Il utilise beaucoup le chantage au suicide, ce qui ne peut que toucher bien entendu des prêtres. Et puis, dès l'origine, il y a, peut-être ça dira quelque chose aux gens, mais ce qu'on appelait le complot des soutanes, qui est les monastères qui
les
cachaient,
des
collabos, des miliciens qui les aidaient à passer en Espagne, en Italie, en Amérique latine, et donc ça s'est prolongé pour lui, de façon exceptionnelle, puisque vraiment, dans les années 80, ce sont les derniers soutiens qui lui restent. Ce sont des milieux catholiques très, très traditionnalistes. Et d'ailleurs, sans doute, les gens se rappellent que Monseigneur de Courtrai, donc le cardinal archevêque de Lyon, diligente après, mais aussitôt après l'arrestation de Touvier, une enquête sur les soutiens dont il aurait bénéficié au sein de l'Église.
Alors, un dernier point peut-être qui pourrait expliquer pourquoi il a réussi à passer entre les mailles du filet, c'est que je crois que le général de Gaulle, quand il parlait de lui, disait Touvier, 12 balles dans la peau, parce que c'était une petite frappe, c'était pas bousqué en fait, et peut-être que c'était pas une priorité.
Oui, alors bien sûr c'est pas une priorité, hein, c'est vraiment un milicien parmi d'autres, on a du mal à s'en rendre compte maintenant puisque son nom est si connu, mais il n'est pas différent et dans un premier temps il n'est pas traité différemment de centaines d'autres miliciens arrêtés ou jugés par contumace. Et bien entendu, le général de Gaulle l'aurait traité comme il a traité les affaires tardives de collabos qui ont été retrouvées dans les années 60. Ça marque une différence aussi pour François Mitterrand, puisque pendant le procès de Touvier, en 94, sort une déclaration de Mitterrand à ce moment-là, qui a dit Touvier n'était qu'un délinquant alors que Bousquet était un grand serviteur de l'État. Mais néanmoins, il faut savoir tourner la page et ce n'est pas nécessaire de juger à 50 ans après les faits un homme. Le jury d'assises ne l'a pas suivi sur ce terrain.
Quand même, cet épisode de 1947 où Touvier est arrêté, il est conduit à Lyon la veille de son transfert, il s'évade grâce à une porte laissée miraculeusement ouverte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Ça, c'est vraiment une histoire incompréhensible. Effectivement, il est arrêté dans le cadre de ses activités de l'époque, c'est-à-dire cambriolage et attaque à main armée, identifié pour ce qu'il est. Et donc, il est gardé 3 jours à la Sûreté rue des Saussets à Paris et il sort tout simplement. Il se réfugie d'ailleurs dans une église, pas la première à côté de la rue des Saussets d'ailleurs. Donc, autre point d'interrogation. Et à partir de ce moment-là, il n'est plus recherché du tout.
Et on n'a pas la réponse à ce mystère.
Non, on n'a pas la réponse parce que les policiers qui l'avaient arrêté étaient morts dans les années 80 et 90, donc ne pouvaient pas être arrêtés. Et il y avait eu sur le moment une enquête administrative sans intérêt, où ils avaient expliqué qu'ils étaient allés déjeuner et que ça s'était produit à l'insu de leur plein gré. Voilà.
Et alors c'était quand même une époque où on peut dire, finalement, jusqu'à François Mitterrand, y compris François Mitterrand, il y avait une approche différente de cette période de notre histoire, parce que ces présidents-là, de Gaulle à Mitterrand, ont connu la guerre. Et puis à partir de Jacques Chirac, qui a ce fameux discours du Vel'd'Hiv autour d'une vraie page, parce qu'on a un président qui n'est pas issu de la guerre.
Voilà, qui n'était lui-même que... Enfin, il était tellement jeune pendant la guerre qu'il pas... Voilà, et il n'y a pas de raison qu'il ait une position personnelle à défendre.
Et donc, est-ce que ça veut dire... Alors pardon, je vous propose la deuxième partie de ma question. Et est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, depuis cette rupture de Jacques Chirac, on a une façon d'aborder cette période de l'histoire qui est plus... comment on va dire, plus honnête finalement. Est-ce qu'il y a une page qui s'est tournée dans notre façon d'aborder cette période de l'histoire ?
Oui, ce qui me permet de le mesurer, c'est les contacts que j'ai avec les lecteurs. Mmh. Où, au fond, c'est rare que je me fasse incendier dans un sens ou dans l'autre. C'est plutôt la curiosité, effectivement, qui l'emporte
sur la culpabilité.
Maintenant. Mmh. Oui, absolument. Ou sur la volonté de défendre un point de vue affectif ou idéologique.
Dernière chose, Bénédicte Vergès-Chénillon, quand même, alors vous l'avez dit, après ce sont des journalistes finalement qui font le boulot. Hein.
Oui.
Bon, tant mieux d'ailleurs, enfin, ça pose question quand même.
Et des juges d'instruction, ne soyons pas
au début,
trop méchants.
La mèche elle est allumée par le canard enchaîné notamment. Ça pose question quand même sur notre système juridique et policier, et peut-être aussi sur la façon qu'on avait d'aborder cette période sombre de l'histoire. À l'époque, il a fallu que ce soit des journalistes qui s'y mettent.
Oui, alors le premier Jacques de Rogy, un grand reporter de L'Express. Qui, en cherchant des renseignements sur Barbie et Jean Moulin, à Lyon, met la main pratiquement par hasard sur Touvier et ne se rend pas vraiment compte qu'il a un scoop. D'ailleurs, c'est une affaire assez amusante, une petite affaire dans l'affaire, et lui a été adolescent pendant la guerre, a eu un parcours très difficile et qui, ne veut pas laisser tomber.
En tout cas, ce Paul Touvier aura vécu 40 ans de sa vie traqué, ce qui ne doit pas être très agréable, personne ne va le plaindre. C'est une forme de justice aussi, ça. Parce qu'est-ce qu'il a gagné finalement d'avoir quasiment toute sa vie gâchée par une traque, quoi.
Alors, d'autant qu'il était très paranoïaque et il vivait réellement dans la peur, une peur auto-entretenue, mais tout à fait sincère. On le voit dans ses archives, dans ses journaux personnels qui sont évoqués dans la fiction et qui sont maintenant déposés aux archives départementales des Yvelines. Donc, voilà. Libre à chacun d'aller les consulter.
Absolument. Merci infiniment, Bénédicte Vergès-Chénillon, pour vos éclairages. Et je rappelle le titre de l'ouvrage que je conseille à nos auditeurs, l'affaire Touvier, les révélations des archives chez Flammarion, signé Bénédicte Vergès-Chénillon. Merci beaucoup, au revoir.
Merci, au revoir.
C'était Affaires Sensibles, la fiction, aujourd'hui Paul Touvier, l'éternel fuyard, une fiction écrite par Manuel Calma, réalisée par Benjamin Habitant et Alexandre Fougeron, émission proposée par Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Kevin Pelot.